Bonjour à tous, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette quatrième édition de la balado Les Écrans, la balado du média en ligne, des médias en ligne. C'est une coproduction du magazine Les Écrans, de par son nom, et du podcast Mon Carnet. Avec moi, Steve Proulx, le président de l'agence de contenu 37e Avenue et l'éditeur du site Les Écrans. Bonjour Steve.
Allô Bruno.
Steve, ce mois-ci, on a le bonheur de recevoir avec nous un monument, et je le mets en guillemets, mais je le pense, dans l'univers des médias au Québec, la productrice et animatrice Marie-France Bazot, avec qui on va passer l'épisode au complet pour discuter d'un livre qu'elle vient de faire paraître aux éditions du Boréal, « Nous méritons mieux », qu'on peut décrire comme une critique personnelle de nos médias qui souffriraient d'un déclin en ce qui concerne leur consistance, ouais, disons-le ainsi. Bonjour Marie-France Bazot.
Bonjour Steve, bonjour Bruno.
Bienvenue dans la balado. Marie-France, le public vous connaît depuis plus de 3 décennies, sociologue de formation, le grand public vous a connu à la radio, au début en compagnie de Pierre Bourgault, avec plaisir, pendant 4 ans.
Ouais.
Et puis, bon, la majorité des gens, Marie-France Bazot, c'est l'animatrice de l'émission Indicatif Présent à la première chaîne de Radio-Canada, un magazine radiophonique que vous avez brillamment animé de 1995 à 2006. Et puis, les Lefteaux aussi, il ne faut pas les oublier, eux ont été marqués par votre animation de la matinale de Radio-Canada. C'est pas trop tôt, entre 2013 et 2015. Si on revient à aujourd'hui, là, dans cette décennie présente, vous êtes beaucoup investi dans des projets télé, à titre d'animatrice, mais aussi de productrice. Comme animatrice dans le magazine Bazot TV à Télé-Québec, mais aussi comme productrice, vous produisez actuellement le grand plateau télévisuel de Télé-Québec. Là, il y a du monde à la messe, animé par Christian Bégin. Puis à travers tout ça, comme c'était pas assez, vous trouvez le temps d'écrire des billets, des chroniques dans l'actualité. Est-ce que c'est le confinement qui vous a permis de retrouver un temps dans votre horaire et qui vous a poussé à écrire cette réflexion sur l'état des médias au Québec?
Le travail final, l'écriture, parce qu'il y en a eu beaucoup de travail avec l'éditeur Jean Bernier. Ça s'est fait pendant le tout début du confinement, pendant le premier confinement. L'écriture, la volonté d'écrire et l'écriture s'est faite en amont. Ça a commencé, l'idée a germé il y a 2-3 ans, puis le travail s'est vraiment fait il y a 1 an et demi, je dirais. Puis vous avez dit, Bruno, je me permets de vous reprendre, vous avez dit en présentation que c'était un ouvrage où je critiquais les médias. C'est une grande partie de l'ouvrage, vous avez raison, mais je voulais absolument que ça débouche sur des solutions. J'aime les médias. J'ai écrit ce livre-là parce que j'aime profondément les médias. C'est ma vie. Ça l'a été très tôt dans ma vie. Ça continue à l'être. Je les aime. Bien sûr, je les ai pratiqués. Je les pratique encore. Je vois beaucoup de défauts. Je vois beaucoup de traits de caractère qui s'accentuent beaucoup ces derniers temps. Je vois ma société en même temps, les médias qui parlent de la société, les médias qui décalissent par moment la société, qui pourraient vraiment faire mieux, qui pourraient faire société, comme je dis. Et c'est dans ce but de donner des pistes, de montrer, parce qu'il y a énormément de talent au Québec, il y a énormément de talent dans les médias au Québec, et ça pourrait aller mieux, on pourrait faire mieux. Et c'est vraiment dans cette optique-là, et d'où le titre « Nous méritons mieux » que je l'ai écrit. Alors oui, il y a une partie critique, bien sûr, mais je ne voulais surtout pas, j'ai horreur de parler de moi, j'ai horreur des souvenirs, de la nostalgie. Je ne voulais pas faire un livre de mémoire. Quel intérêt! Si moi, ça ne m'intéresse pas, ça n'intéresse personne. Alors, c'était vraiment dans l'optique d'apporter ma part et de donner des pistes de réparation.
Quoi qu'avec toutes les gens que vous avez croisés dans votre vie, une bio, je pense que c'est pas tout le monde qui serait.
Non, ça n'arrivera jamais.
On en parlera.
Oh mon Dieu, on peut en parler tant que vous voulez, ça n'arrivera jamais.
Bon, c'est dit. Ça fait bon quelques semaines que le livre est sorti, Marie-France. Jusqu'ici, bon, vous avez fait un marathon d'entrevues, vous en avez beaucoup parlé, mais l'industrie, les gens que vous connaissez, comment est-ce qu'ils ont reçu ce livre-là, eux, et qu'est-ce qu'ils vous auront dit?
C'est très curieux, la vie d'un livre, Steve. Il y a le marathon d'entrevue, justement. On défend le livre et après ça, le livre vit tout seul. Des amis auteurs m'ont expliqué que À un moment donné, il faut que tu arrêtes de le défendre, il faut que tu arrêtes de le promouvoir, puis il va trouver sa vie, il va être lu, puis les gens vont te revenir, vont t'en parler, vont t'écrire. Donc, il est à cette étape-là. Au tout début, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui étaient curieux de savoir ce que j'en disais, dont des décideurs. Et j'ai reçu des commentaires de gens du milieu en courriel, en appel, en DM sur Twitter. Vraiment des commentaires très... qui allait dans le sens de ce que je dis dans le livre. Beaucoup de... J'ai souvent des conversations ce qu'on pense, mais qu'on ne peut pas dire. Et j'ai reçu des commentaires dans ce sens-là. Ce n'est pas une majorité de décideurs, là, mais vraiment du monde du milieu, des producteurs, des gens qui ont été dans des postes de direction, des gens qui sont dans des postes de direction, qui me disent « il faudrait qu'on s'en reparle, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais il y a des choses qui sont vraies là-dedans, ça me fait réfléchir ». Il y a eu de ces commentaires-là, mais il n'y a pas eu encore de prise de parole publique. Par ailleurs.
Vous avez dit à mon collègue Philippe, vous avez accordé une entrevue aux écrans,
oui.
Que vous n'auriez pas pu écrire ce livre-là il y a 4-5 ans parce que vous aviez trop à perdre.
Oui.
Moi, j'ai lu le livre au complet. J'y vois des critiques. Vous mettez le doigt sur beaucoup de choses. En même temps, je trouve ça assez constructif, je pense, que vous auriez pu l'écrire il y a 4-5 ans. Non?
Non, parce que quand tu es animatrice ou chroniqueur, il y a des susceptibilités immédiates de patrons immédiats qui sont peut-être insécures, qui voient ça comme cracher dans la soupe. Non, je ne pense pas. Je pense que j'aurais eu plus à perdre. C'est peut-être une impression que je me fais.
Je pense à Richard Martineau qui avait traité Pierre-Carl Péladeau d'assisté social de luxe dans Le Voir.
C'est vrai.
Il a été engagé deux ans après.
C'est peut-être une manière de lui fermer la gueule, par ailleurs.
Peut-être.
Je ne sais pas. Richard répondra. Mais c'est peut-être de l'insécurité de ma part. Je crois que j'aurais eu à perdre, oui. Je trouve que j'ai beaucoup moins à perdre maintenant. Cela dit, il y a certainement des rancœurs et des... J'analyse, on jase simplement. Je constate que l'accueil a été vraiment différent. Les entrevues que j'ai eues et la manière dont se sont déroulées les entrevues, c'est vraiment... C'est fun, on peut en parler parce qu'on est vraiment à la fin du cycle d'entrevues. Elles n'étaient pas les mêmes... selon les intervenants, un animateur humoriste, évidemment, va accrocher sur le chapitre où je parle de l'humour dans les médias puis au Québec. Quelqu'un d'autre va accrocher sur quelqu'un qui donne de l'opinion va accrocher sur le sujet de l'opinion puis du débat. Mais j'ai remarqué que par média, mes anciens collègues de Radio-Canada étaient particulièrement froissé ou indisposé par certains aspects.
Vous parlez de Jean-Philippe Gauthier, là, je pense. Est-ce que c'est...
Non, pas que. Tous. Tous okay. De Radio-Canada. Tous.
D'accord.
C'est particulier.
Ça,
je ne le sais pas. Honnêtement, Bruno, je ne le sais pas. J'ai quitté Radio-Canada, cela dit, parce que je trouvais qu'on ne m'offrait plus rien d'intéressant après « C'est pas trop tôt ». Ça a peut-être choqué, je ne sais pas, mais cela dit, ça devrait choquer la direction, pas tant les animateurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai longtemps été identifiée à Radio-Canada et j'ai été quittée par Radio-Canada. Puis après ça, j'ai quitté Radio-Canada. Je ne sais pas. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère pour moi.
Mais c'est intéressant que les ex-collègues et les nouveaux qui n'étaient pas là à l'époque, qui maintenant ont des micros, est ce sentiment-là par rapport à votre écriture ou à votre regard?
Et quand l'attaché de presse a fait le tour de tout le monde, c'est sa job, pour voir qui voulait me recevoir en entrevue, il y a eu des noms immédiats à Radio-Canada. Je constate, c'est tout. Je n'ai pas d'explication, mais je constate. Je suis sociologue, je fais des catégories, je fais des colonnes et je constate qu'à Radio-Canada, c'est particulier. Il y a des gens qui m'ont reçu, ça a été plus serré qu'ailleurs, puis c'est correct des entrevues serrées, mais je constate que les refus venaient beaucoup de Radio-Canada aussi.
Marie-France, je vous amène ailleurs. Bon, évidemment, il y a des critiques, des observations par rapport aux médias qui sont faits dans le livre. Mais de l'autre côté, puis vous le disiez, notamment au début de la réponse à Steve, il y a tout cet apport du talent. Mais je suis curieux, qui est là, le nouveau talent? Mais je suis curieux de vous entendre sur, est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui dans les médias qui vous inspirent?
Les nouvelles voies, le remplacement de génération, est inspirant et enfin il y a différentes tendances là-dedans, mais le fait que les générations se renouvellent, c'est inspirant. Le fait les balados, tout le mouvement des balados est vraiment captivant à mon avis. On entend là et les auditeurs vont chercher, les citoyens, devrais-je même dire, vont chercher là un menu, un contenu, une consistance qu'ils ne retrouvent pas nécessairement sur les ondes officielles, qu'elles soient publiques ou privées. Il y a vraiment, c'est pas un hasard.
Est-ce que vous diriez qu'ils ne retrouvent plus?
Plus et pas, les deux. Et les auditeurs de radio vont chercher quelque chose dans les balados. Mais des téléspectateurs de télévision vont chercher aussi quelque chose dans ce contenu parlé. On y trouve des choses très, très, très pointues sur des intérêts très particuliers qu'on peut avoir et qu'on est à peu près les seuls à avoir puis qu'on partage avec d'autres mondes de la francophonie. On trouve des voix différentes, des dictions différentes, des longues entrevues. On trouve des propos sur très semblables souvent à ceux qu'on nous propose à la radio, mais fait avec des fois plus de passion, souvent avec plus de temps, avec moins de moyens, mais plus de créativité. On y trouve des fois des formules complètement différentes puis qui vont être reprises par la télévision ou par la radio. C'est un laboratoire d'expérimentation, mais c'est aussi une nourriture incroyable pour les citoyens, vraiment.
Et si je m'adresse à la productrice, parce que l'animatrice, bon, vous en avez fait le balado, là, vous l'avez connu, mais la productrice, elle, est-ce qu'elle y voit un média qui pourrait être développé, qui pourrait être, pour la productrice, quelque chose d'intéressant?
Oui, on en fait un peu, on en fait en marge de documentaires, certains documentaires qu'on produit pour Télé-Québec, et on en a un en ce moment qui est en cours de fabrication pour un prochain documentaire sur René Lévesque. Très étrangement, il y a des maisons de production, puis on travaille de très près avec des maisons de production, avec Récréation, pour ne pas la nommer, qui fabrique du balado. Moi, j'y vois moins l'intérêt, peut-être parce que j'ai fait tellement de radio, puis de radio que j'ai aimé profondément et que jusqu'à tout récemment, qui me permettait vraiment de dire tout ce que j'avais à dire, que j'ai moins ressenti le besoin d'aller vers la balado pour moi ou d'en créer. Il y a vraiment une autre génération qui possède mieux, qui crée les nouveaux codes, je crois. Je ferais de la balado relativement traditionnelle si j'en faisais. Je préfère écouter ce qui se fait. Honnêtement, ça me nourrit. Pour moi, c'est comme écrire de la fiction. Je n'en ferai pas, je n'ai pas cette imagination-là, mais j'en lis beaucoup.
Il y a une balado que vous écoutez québécoise ou provenant d'ailleurs qui vous a marqué ces derniers temps?
Étrangement, j'écoute des balados très affaires publiques. J'aime beaucoup le balado de Serge Savard au Québec. J'écoute les longues entrevues de Mathieu Bock-Côté. J'écoute beaucoup de français. J'écoute Les Pieds sur Terre très régulièrement.
Serge Savard ou Fred Savard?
Mon Dieu, Fred Savard, okay, oui,
la langue officielle.
Oui, Fred, non, pas du tout.
Je suis en train de chercher, est-ce que j'ai entendu le balado de Serge Savard?
Non, c'est ça, j'écoute le balado de Fred, effectivement. D'accord. Donc, je me promène un peu partout, mais c'est surtout des balados de contenu sur des thèmes, des sujets qui m'intéressent, mais je me rends compte que je n'aurais pas la créativité pour faire ça, ou l'envie de m'investir à long terme non plus sur des balados comme par exemple ce que fait Fred, faire ça toutes les semaines avec vraiment dévouement. J'ai plus envie de picorer en ce moment, de partir des projets, bref.
revient à votre livre, vous dites que vous ne vouliez pas trop parler, vous épancher sur votre vie personnelle, sur vos souvenirs, vous le faites quand même un peu dans le livre. Moi, j'ai trouvé ça
pour
très
situer, oui, il faut.
Je trouvais ça très satisfaisant comme ça. Notamment, c'est intéressant que ce que vous dites avec Indicatif présent. Moi, je vous ai connu à Indicatif présent, mm-hmm. vous écoutez religieusement comme bien des gens. Et vous aviez l'ambition avec cette émission-là de créer un star système intellectuel.
Oui.
Avez-vous l'impression d'avoir réussi? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un star système intellectuel? C'est drôle parce que cette semaine, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de Mathieu Bock-Côté qui était dans l'actualité pour oui. drôle de raison, qui est né à votre émission, en fait, Mathieu Bock-Côté. Mais est-ce qu'il y a un star système intellectuel au Québec aujourd'hui?
C'est vraiment une des affaires que j'aime le plus faire. De la même manière qu'il existe un star système culturel, on peut avoir des intellectuels tous azimuts, de tout âge, de différentes provenances, et ramassés dans la même émission, à la même antenne, qui jasent ensemble, qui discutent de la société, qui brillent. Il faut les prendre, il faut les former jusqu'à un certain point aux différents médias, que ce soit radio ou télévision, parce que tous les universitaires n'ont pas, puis ont plein d'autres talents et d'autres qualités, mais ils ne brillent pas spontanément à la télévision ou à la radio. Il faut les mettre en scène, il faut les coacher, il faut aller les chercher, il faut les imaginer avec un tel et une telle. C'est vraiment une volonté, et c'est une volonté que j'avais, mais que toute l'équipe avait à Indicatif présent, qu'on a continué. C'est toujours plus difficile à la télé parce que il y a plus de contraintes en télévision, et il y a celles des diffuseurs également qui sont plus frileux. Mais on a poursuivi. Il y a des émissions qui poursuivent cette mission-là. Je pense que Marie-Louise Arsenault le fait à son émission « Plus on est de fous ». Elle met en scène différents penseurs qui parlent de livres et de société. Il y a des endroits où on le fait comme ça. Cette idée de créer un star système québécois n'est pas d'intellectuel québécois pourrait être... vraiment pousser beaucoup, beaucoup plus loin, de mettre en scène des opinionneurs dans différentes émissions, comme à la Joute, comme ce l'était aussi au Club des Ex. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment aller chercher. Puis, vous parlez de Mathieu Bock-Côté qui brille partout aujourd'hui. Beaucoup des intellectuels qu'on a mis en scène à l'époque d'Indicatif présent sont encore dans les médias, qui font encore partie de ce star system. Oui, absolument. Il y avait vraiment des chroniques à l'époque où il commençait. Il était vraiment tout petit, très grand déjà compteur, mais tout petit. Mais je trouve que ça pourrait être systématisé. Ça pourrait se faire. J'en connais plein. On en découvre plein dans une émission qui est pourtant une émission quand même plus de variété à Il y a du monde à la messe, on en trouve, on en met en scène. J'en côtoie pour différents projets, il y en a plein qui ne sont pas connus en dehors de leur cercle universitaire et qui ont tous les talents, y compris ceux de la prestance, du charisme, qui pourraient très bien briller et éclairer la société et, je le répète, faire société. Il y a de la paresse dans les médias, c'est clair, clair, clair. Il y a vraiment de la paresse parce qu'on pourrait, en incluant de la diversité, en mettant beaucoup de femmes également, il y a du monde brillant partout et on pourrait avoir des tablés absolument stupéfiante, intéressante et divertissante aussi en même temps, d'intellectuelle.
Vous effleurez un peu le problème dans votre livre sans vraiment l'approfondir, mais il y a quand même une crise des médias, il y a un manque de moyens qui augmente avec les années. Est-ce que c'est pas une explication de la piètre qualité ou du déclin de la qualité qu'on peut remarquer ces dernières années?
C'en est un, et vous avez raison, j'ai pas voulu m'apesantir là-dessus, d'autres le font, c'est vraiment économique et il y a vraiment une pauvreté un manque de moyens, mais ce n'est pas tout, puis c'est ça que je voulais mettre de l'avant, ce n'est pas tout, cette crise des médias-là, c'est beaucoup aussi une crise de confiance des citoyens envers les médias, c'est une crise, c'est un désamour énorme envers les médias. Et même s'il y avait plus de moyens, il n'y aurait pas nécessairement moins de paresse, il n'y aurait pas nécessairement moins de méfiance envers les médias. Il y a tout un autre aspect qui est intangible qui est vraiment, qui tient du constat, mais qui a des répercussions vraiment réelles dans le fait que les médias se détachent de leur société.
Moi, je le vois. À chaque fois que j'écris sur le journalisme ou sur ces sujets-là, le manque de confiance, là, je le sens dans les commentaires. Il y a toujours 3-4 personnes qui n'ont plus aucune confiance dans les médias.
Et il grandit, vous le constatez.
Oui. Ce que je constatais pas avant. Moi, j'ai eu une chronique pendant longtemps dans Le Voir où je parlais de médias pendant 7 ans. Et puis, j'avais jamais de commentaires sur même l'existence même des journalistes. Là. Ils n'ont pas confiance en quoi que ce soit qu'on écrive, là. C'est clair, là. C'est vraiment des gens qui sont dans une autre réalité. Et pour moi, c'est nouveau.
Oui, Bruno, vas-y.
Non, j'allais dire, je suis curieux de vous entendre. La pandémie n'a rien arrangé là-dedans. Comment les médias font pour regagner la confiance des gens?
Il faut retricoter des fils. Il faut donner de la place à ces gens-là dont on parle, qui sont toutes sortes de monde. On ne parle pas juste des complotistes. Mm-hmm. On parle, puis qui se méfient des médias, puis des Trumpistes qui existent même au Québec, mais qui existent un peu partout, puis des gilets jaunes en France, puis de toutes sortes de gens qui crient fake news. Il y a plein de catégories sociales qui ne se sentent pas représentées, dont on parle par-dessus la tête, on les appelle les gens, le monde ordinaire, puis on ne les entend pas, on ne les voit pas, ils n'ont pas droit de parole, mais on parle ou en leur nom ou en se foutant complètement d'eux. Il y a tout ce qui est le territoire québécois, les régions, qui la crise économique dont parle Steve entre de plein fouet. Il y a eu des coupures immenses dans la presse régionale, dans les stations régionales de différents médias. Et les réalités régionales sont complètement oblitérées. Et pourtant, elles sont capitales. Le Québec est grand, le Québec est diversifié. Les régions se sentent non seulement éloignées, mais se sentent méprisées. Il y a quelques années, Steve s'en souviendra, on parlait beaucoup de tout l'intelligentsia québécoise et tous les médias québécois qui étaient concentrés, non pas seulement à Montréal, mais sur le plateau Mont-Royal. Puis on s'est aperçu que c'est vrai, physiquement c'est vrai. Élargissons maintenant à Rosemont puis au Mile-End, mais c'est vrai. Ça donne des choses complètement déconnectées. J'étais dans Charlevoix il y a quelques semaines et dans une boutique, l'émission d'après-midi, c'est le Québec, ce qui jouait dans la boutique, c'était Le Québec maintenant, qui est une émission montréalaise animée par Patrick Lagacé avec des préoccupations, ma foi, assez montréalaises et la circulation à Montréal. Puis t'es en plein cœur d'un village de Charlevoix, en banlieue de Baie-Saint-Paul, puis t'entends ça. Ça sonne drôle. Puis le monde de la place trouve que c'est pas drôle. Il y a vraiment un problème de déconnexion. Le Québec est fracturé en deux, Montréal région, et cette fracture-là se répercute épouvantablement dans les médias. Mais il y a différentes fractures, gauche-droite.
Mais c'est vrai que la fracture région-Montréal, je trouve que c'est une fracture importante. Il y avait la FPJQ, je me souviens, avait fait une carte là, pour enchérir sur ce que vous disiez, où est-ce qu'on voyait clairement, là, à partir de tous les membres de la Fédération des journalistes, on voyait où est-ce qu'habitait. Et puis effectivement, c'était Plateau, Rosemont-Petite-Patrie. Et c'est très vrai tout ça. Parler un peu des séries, des fictions, adopter notre hiver à la télé, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent parce que
ça aussi, coûte cher.
Ça coûte cher, hein. Et aussi s'éloigner de Montréal, les perdiennes, ça coûte cher. C'est peut-être la raison pour laquelle on voit peu les régions dans nos séries. Ça se passe toujours l'été à Montréal, on voit quand même quelques séries qui commencent à apparaître. Ce que vous dites, ce que vous proposez, c'est de faire du Québec un Danemark d'Amérique.
Oui.
C'est une bonne idée.
Le Danemark qui est vraiment connu partout, dont on voit les séries, dont on consomme des séries, ça a commencé par Borgen, et le Québec pourrait y avoir des mécanismes d'aide justement à l'exportation des séries québécoises. Nos appartements du plateau sont semblables à ceux de Brooklyn, sont semblables à ceux de Montreuil en France, sont semblables à ceux de partout où il y a des bobos dans le monde. Mais notre territoire à l'extérieur de nos villes est vraiment typique et particulier, que ce soit en été, mais particulièrement en hiver. Et il y aurait moyen, des séries comme La Faille, ça peut se promener. Ça a vraiment un potentiel de vie un peu partout, fragile aussi, qui se passait en grande partie en hiver, merveilleusement écrit par Serge Boucher, a un potentiel aussi. On devrait miser sur l'exportation de nos séries parce on se l'est assez dit politiquement pendant des années et socialement. On est vraiment un coin à part, une culture vraiment particulière. Ben, exportons ce qu'on fait bien, exportons nos séries. Ça, c'est une... puis ça donnerait aussi confiance aux régions, puis ça montrerait au grand centre que autre chose existe, qui est monnayable, qui est exportable et qui est objet de fierté. C'est une part de la réconciliation entre le grand public et les médias. C'est une des nombreuses pistes. Elle est un peu particulière parce qu'elle passe par le territoire, mais je suis contente que vous parliez de ce chapitre-là. Le territoire est toujours oublié au Québec, peu importe le sujet dont on parle, qu'on soit en politique, qu'on parle de médecine, qu'on parle de littérature, qu'on parle de télévision, qu'on parle de n'importe quoi. On oublie que les gens, la moitié du Québec vit dans Montréal et ses très grandes couronnes, mais il y a toujours bien la moitié du monde qui vivent ailleurs, puis qu'il faut l'habiter, ce territoire-là, puis qu'il faut en parler.
J'avais fait pour un nouveau projet une carte en qualifiant tous les films québécois, le lieu où est-ce que ça se déroule,
oui.
Le film. On avait fait, j'avais mis plein de journalistes là-dessus pour m'aider, puis on avait 200 ou 300 films québécois. Et c'est intéressant de voir que grosse proportion se passe à Montréal. L'autre grosse proportion, c'était Saint-Glinglin des Meumeux. Un petit village profond qu'on nomme pas. Le véritable parent pauvre au cinéma, c'était les villes comme Drummondville ou Victoriaville ou les villes de taille moyenne qui sont nombreuses au Québec. Et ces villes-là n'existent pas du tout dans notre cinéma ou très, très peu. Et c'est vraiment, vraiment cette dichotomie-là, Montréal ou la campagne profonde.
Mais c'est fascinant, on ne les nomme pas. Puis même encore, Fermont a été nommé dans La Faille, mais Fragile, qui a toutes les qualités du monde, a juste un défaut de ne pas dire que c'est Victoriaville. Ça a été tourné dans le coin de Victoriaville et ça représente une... Pourquoi on ne nomme pas? C'est quoi la honte à mettre un nom sur ce qui est à l'extérieur de certains quartiers de Montréal? On a un problème, okay, puis là, ça dépasse complètement les médias, là, on n'est pas capable de nommer le Québec. Il y a plein de monde qui aurait de la difficulté sur une carte à situer à brûle-pourpoint 10 localités de moyenne importance. Et il y a plein de monde qui confond encore sur une carte Rimouski et Chicoutimi, qui ont la caractéristique de finir en I. C'est tout. Bon, on ne sait pas exactement où les situer. Ce déficit géographique est étonnant. Il parle beaucoup d'un déficit d'amour du territoire, mais d'amour et de connaissance de nous. Puis il se reflète dans les médias, puis ça parle, quand je parle de désamour entre les citoyens et les médias, un désamour qui est grandissant, ça parle d'un certain mépris, ça parle de voix qui ne méritent pas d'être entendues, ça parle de gens dont il n'est pas important de raconter l'histoire. Tant qu'on ne répare pas ces fils-là de toutes sortes de manières, on se magasine du trouble, puis le fossé va se creuser de plus en plus sociologiquement entre Montréal et les régions, mais entre tout le Québec. C'est vraiment fondamental, ce problème-là, à mon avis.
Parmi les chapitres de votre livre, vous faites des checklists qui sont assez amusantes, en fait, et je retiens la dernière. Chose à faire si j'étais directrice de la programmation d'une chaîne publique.
Publique.
Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est une entrevue non sollicitée ou une candidature spontanée que vous faites avec ce livre-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire dans la vie?
C'est quelque chose que, étonnamment, j'aurais aimé faire il y a peut-être 10 ans à la radio. J'aurais aimé ça, honnêtement. Là, vraiment, je trouve que il faut que ce soit une autre génération qui le fasse. avec ouverture, avec générosité, mais il faut que ce soit une autre génération. J'ai plein d'idées. Puis je voulais terminer, c'était une manière amusante de terminer aussi en montrant qu'il y a des pistes de solutions, mais c'est pas moi qui le ferai. Je pense que je suis un petit peu fâchée avec ou que cette chaîne-là est un peu fâchée avec moi. Fait que ça se passera pas vraiment.
Il reste Télé-Québec, là. Télé-Québec, ça serait pas pire, ça.
Mais honnêtement, j'aimerais mieux le étrangement, je connais mieux la radio que la télévision, malgré tout, là. Plus finement la radio que la télévision. Et les choses peuvent se passer plus vite et se passent plus vite. Et c'est pour ça que je suis plus critique de la télévision dans mon livre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étages, de décisions et de dilution du propos et des solutions en télévision. Le travail est plus grand à faire. Les choses changent et peuvent changer plus facilement en radio parce qu'il y a moins d'étages de direction, parce que entre une bonne idée et sa réalisation en ondes, il y a beaucoup moins d'obstacles. Donc, la prise serait plus directe, serait plus le travail immédiat dans une programmation serait beaucoup plus visible qu'en télévision où ça prend plus de temps. C'est un paquebot beaucoup plus lent à bouger. Je me répète, je connais plus finement les rouages et les idées à la radio. Donc, j'aurais vraiment pas détesté ça à la radio. Mais vraiment, je pense d'autres générations vont le faire certainement très bien.
Marie-France, dernière question. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous auriez choisi de vous lancer dans les médias?
C'est une bonne question. Je regrette pas du tout. Je me suis pas lancée dans les médias en sens que je n'ai pas eu de formation médiatique. Donc, j'y suis arrivée par hasard, et j'ai embrassé ça, comme dirait Christian Bégin, complètement après, mais ça n'a pas été une décision réfléchie et pensée depuis longtemps. Probablement que il y a d'autres choses qui m'intéresseraient, l'architecture, l'urbanisme, de réfléchir sur la ville, sur le territoire, ça m'intéresserait beaucoup, 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 beaucoup. J'hésiterais entre les deux. Le monde des médias actuels est est plus bloqué. Il y a des pistes de solutions. J'ai bon espoir que ça change, mais en ce moment, il n'est pas le fun. En ce moment, avoir 20 ans, je trouverais pas ça particulièrement le fun. Les perspectives d'emploi, si j'habitais en région, ça voudrait dire de m'exiler à Montréal. Si j'étais à Montréal, ça voudrait dire je trouve pas le paysage médiatique particulièrement excitant en ce moment. Donc là, juste là, avec l'horizon, sans savoir qu'on peut changer des choses et sans y croire comme j'y crois après toutes ces années-là, je ne sais pas si j'aurais cet élan-là.
Tu aurais pu devenir une influenceuse?
C'est vrai! Mais oui!
Au petit compte Instagram. Hein?
C'est vrai.
Endosser des produits.
Ouais. Mon rêve.
On aurait enfin vu les chapeaux, oui. Les vêtements.
Voilà.
Tout, c'est ça, les chaussures et les produits pour chat, effectivement.
Voilà.
Ouais.
Ben, il n'est pas trop tard pour devenir influenceur.
Effectivement. C'est voilà. Vrai.
Marie-France Bazot, merci d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions comme ça.
Ben merci, c'était très chouette. Et vous êtes ma dernière entrevue.
Bon.
C'est vraiment très fun. Non, mais c'est vraiment, ça oblige complètement à aller ailleurs. Un tour complet a été fait, alors tu ne peux pas te répéter. Tu es comme dans le bilan un peu. Bref, merci de m'avoir permis ça.
Ben merci d'avoir accepté. J'espère qu'on a été à la hauteur de cette dernière entrevue.
Ben j'espère aussi avoir été à la hauteur.
Ça a été le cas. Je rappelle le titre du livre de Marie-France Bazot, « Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec » et c'est publié aux éditions Le Boréal. Je ne veux pas mêler votre liste de cadeaux, mais je pense que ce serait une bonne idée de cadeaux à offrir dans le temps des fêtes à votre professionnel des médias préféré. Steve, un mot en terminant?
Ben merci Marie-France. Et puis j'invite tout le monde à surveiller notre page Facebook pendant le mois de décembre. On fait un calendrier de l'Avent un peu sympathique avec toutes sortes de petites pépites numériques qu'on a déterrées ici et là pour nous faire sourire chaque jour jusqu'à Noël, pour tenir jusqu'à Noël. On en a bien besoin ces temps-ci de sourire un peu. Donc, surveillez ça aussi sur notre page Facebook de Les Écrans.
Merci beaucoup, Steve. Quant à moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour une nouvelle édition de la balado Les Écrans en janvier. Passez de bonnes fêtes. Portez-vous bien. Au revoir.